Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le numéro 21. Et forcément, il y a eu énormément de réactions suite à la publication du dernier numéro, si vous ne l'avez pas encore entendu. C'est un numéro spécial où mon épouse, qui est bipolaire, vient parler de sa maladie. Et quand on dit sa maladie, c'est la bipolarité, mais la sienne. C'est-à-dire que c'est une des choses qui, je crois, est assez intéressante dans ce qu'elle a raconté. Le fait que chacun peut le vivre différemment. Et donc, elle racontait comment elle vivait la sienne. Vous avez été excessivement nombreux à m'envoyer des messages. Vous avez été nombreux aussi à me demander des façons de lui envoyer des messages à elle. Et c'était cute parce que je la voyais hier dans la maison en train de répondre. Et elle me disait, je suis désolé, mais si je dis dans le podcast que je le raconte, entre autres, pour pouvoir être utile aux gens, ben, je peux pas ne pas leur répondre immédiatement. Tu vois. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez le faire. Et elle me disait que ce qui comptait le plus pour elle, c'était le fait qu'on se rende compte qu'on n'est pas seul. Ça fait du bien de te rendre compte que tu n'es pas aussi isolé que ce que tu crois. C'est pas parce que tu es la seule personne de ton entourage à vivre ça que tu es la seule personne à le vivre dans le monde. Et le fait de connecter ces gens-là ensemble, ça peut parfois être utile. Et c'est aussi quelque chose que je me suis vraiment rendu compte, dans le podcast, c'est que tu as beau aller au plus précis, tu parles jamais à une seule personne. Même si je parlais d'une maladie orpheline unique au monde, si je parle du cas de cette personne, tous les gens qui ont une maladie qui n'était pas comprise par d'autres vont se sentir concernés, je crois. Donc, bizarrement, ironiquement, le fait d'aller au plus précis te permet quand même d'être assez large et c'est ce qui m'intéresse le plus, forcément, dans ce podcast-ci. Et j'aime aussi, je veux dire, je suis super content, je vois les chiffres, parce que mon but, comme je vous l'ai dit, c'est de faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Donc, j'ai envie que les chiffres, les statistiques augmentent pour pouvoir voir qu'il y a un horizon où je puisse en faire ma carrière, finalement. Mais au-delà de ça, c'est pas tant la quantité de gens. C'est plutôt le point qu'on a en commun. Je veux dire, et l'exemple va être spécial, là, mais je suis encore sur un livre de Seth Godin dont je vous parlais. C'est un gars qui avait fait The Purple Cow, donc la vache pourpre, il y a plusieurs années. C'est un espèce de, entre guillemets, gourou du marketing qui là, est dans un trip. Servons-nous du marketing pour être agent de changement positif et servir les gens, ce qui en soi est assez positif, avec lequel je suis assez d'accord. Et je crois que j'en avais glissé un mot sur le fait que pour lui, quand tu veux faire quelque chose de significatif, ce que tu dois toujours viser, c'est le plus petit marché viable possible. Quelle est la plus petite quantité de personnes nécessaire pour pouvoir vivre de ce que tu fais ou introduire le changement que tu veux introduire? Et pour viser ça, tu dois viser des gens qui ont des caractéristiques précises, et en acceptant, et au-delà même d'accepter, en étant limite content que ce soit pas pour tout le monde, et en te concentrant que là-dessus. Moi, depuis le début, je vous le dis, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont curieux, ouverts d'esprit. Certainement, beaucoup de gens qui m'écoutent, vous m'écoutez, vous êtes souvent senti un peu outcast. Je serais absolument pas surpris. Vous aimez aussi la nouveauté, et vous aimez prendre le temps. Je veux dire, ce que je fais, c'est long. C'est des longs podcasts, c'est des longues conversations. C'est pas le top 5 des blagues à dire lors de ton prochain apéro Skype. On n'est pas vraiment là. Et ben, ça fait un peu peur de se dire, je vais essayer de viser une minorité de personnes. Mais quand je vois le retour, ce que vous me rapportez, j'ai une liste de sujets en banque pour les prochains épisodes. Souvent avec des emails que vous m'avez envoyés. Et vous m'envoyez un message et à la fin, vous dites « Désolé pour la longueur du message ou pour la longueur du pavé. » Mais ne soyez pas désolé de ça. Au contraire, merci. Merci de prendre le temps. Merci d'être généreux. Merci de ne pas le faire à la va-vite. On fait tellement de choses à la va-vite. Si vous avez choisi de vous arrêter, de prendre du temps et d'écrire le message, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est sûr que vous ne faites qu'un pavé sur quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Et c'est là ma vraie ligne éditoriale, finalement, parler de choses qui tiennent peut-être un petit nombre de personnes, mais un nombre de personnes vraiment à cœur. Je veux que ce soit le sujet le plus intéressant pour au moins une personne dans le monde. Et à force de faire des épisodes, ben à un moment donné, j'aurais peut-être fait 1000 épisodes et donc il y aurait eu 1000 personnes qui auront eu un sujet qui les auront fascinés. Donc voilà, je vous parle des sujets juste comme ça, si vous avez des réactions ou vous voulez en ajouter, des choses qui m'intéressent et dont je vais parler dans les prochains épisodes. Je vais parler des boissons énergisantes, énergétiques, je ne sais pas, bref, les energy drinks, leur origine, les dangers, le marketing qu'il y a autour, qui s'en est servi. J'ai plein d'exemples avec Red Bull, entre autres. Encore une fois, moi, c'est le marketing, ma passion. Comment eux ont réussi à viser plusieurs clientèles. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pubs de Red Bull que vous n'avez jamais vues. Parce qu'entre autres, ben, ça ne s'adresse pas à vous. Et aussi parce que pour certains moments, pour toucher certains publics, ils vont préférer sponsoriser des événements, donc commanditer des événements, sans mettre leur logo. Pour que ce soit uniquement les gens qui sont à l'origine de ces événements qui soient au courant, que ce soit Red Bull qui soit là, comme ça, c'est eux qui initient la conversation auprès de leurs proches en disant « Ah, Red Bull, OK, grosse compagnie, tout ça, mais ils ont quand même fait ce truc-là. » Et donc, les anecdotes autour de Red Bull sont absolument fascinantes. Et je veux parler des YouTubeuses beauté aussi. Celles qui ont des... je dis celles, il y a ceux, mais moi, les comptes que je regarde, c'est plutôt des femmes, donc je connais beaucoup moins les comptes des hommes. Parce que tout ce qui est donc influenceur, youtubeuse, beauté, tout ça, j'ai l'impression que ils sont fort, fort jugés sur le fait de « Ah, oh, c'est des meufs qui se maquillent, quoi. Ah, oh, mais ça y est, ça a un beau cul, puis ça nous vend deux, trois produits, ça fait rien de sa vie. » Et ça m'a toujours vraiment fort dérangé comme analyse parce que, pour m'y intéresser un tout petit peu, les filles qui ont des chaînes YouTube travaillent comme des malades. Elles ont 5-6 métiers en même temps. Il y a un soin du détail. Leur vie est super intéressante. Si vous faites partie, vous écoutez, puis par hasard, vous avez une petite chaîne ou une grande chaîne, peu importe, et vous avez envie de me parler, vous connaissez quelqu'un qui fait ça, ça m'intéresse, j'ai envie de vous parler. J'ai envie que t'aimes ou que t'aimes pas, que tu trouves ça utile ou inutile, mais juste que réalise que ben, c'est pas facile à faire. Et même les influenceurs, genre, beau cul, puis vend des produits. Il y a énormément de gens qui ont un beau cul dans la vie. C'est une ressource pas vraiment très limitée. Et les personnes qui ont un beau cul, il y a 1000 personnes sur leur compte Instagram, et d'autres qui en ont 1,2 million. Si t'as 1,2 million, t'as fait quelque chose. Ah, il est connu à rien faire. Déjà, être connu à faire quelque chose, c'est pas facile. Et donc, si t'es, entre guillemets, connu à rien faire, t'as un talent de communicateur qui est fantastique et on peut ne pas aimer les personnes, ce qu'ils défendent. Peu importe. Mais tu peux pas dire que ce qu'ils font, c'est facile. Si oui, moi aussi, j'aurais 2 millions de followers, je roulerais dans mon argent, je ferais un podcast par jour, mais je ferais rien d'autre parce que ce serait ma vie. Ou d'ailleurs, mini parenthèse, pour revenir à Madame mon épouse, vous avez aussi assez nombreux, je sais pas. Bref, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que, en gros, on la trouve chouette, est-ce qu'il y a moyen de l'entendre plus? Et moi qui l'entends souvent, c'est vrai qu'elle est chouette. Voilà. La pause, c'était moi qui hésitais à faire une blague en disant, moi qui l'entends souvent, pas sûr, vous voulez l'entendre plus, mais ça, absolument pas vrai. Et à l'époque, vu que j'ai 2000 ans, on avait un podcast ensemble qui s'appelait Weed with Wife. C'est au moment où on a réaménagé au Canada. On avait du temps. Le cannabis est devenu légal en octobre. Et puis, je crois que le lendemain, on a démarré ce podcast. On a fait finalement deux numéros, entre autres parce qu'elle est tombée enceinte. Et c'est cool. Donc, le concept partait un peu à l'eau. Et ce week-end, on a réenregistré un numéro. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer ce numéro avec elle. Elle a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et donc là, pour l'instant, il est diffusé nulle part. Il est publié nulle part. Mais en fait, je crois que je vais créer une nouvelle chaîne sur Spotify. Parce que je pense qu'on va en faire plusieurs, parce que mon objectif, encore une fois, est de devenir un mogul dans le domaine du podcast. Bref, j'aimerais savoir plein de shows différents avec plein de concepts différents. Et ça, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Donc, d'ici une semaine, 10 jours, normalement, ça devrait arriver. Je veux parler aussi de des femmes qui reçoivent constamment des messages bizarres, des gens connus, pas connus. J'aimerais ça avoir les vos messages les plus étranges que vous recevez. Je dis ça parce que j'ai quelques amis humoristes qui reçoivent perpétuellement des choses très bizarres dans leur boîte mail, entre autres, sur leur compte, sur différents réseaux sociaux. Et j'aimerais parler de ça, qui est pas une exception et qui est constant, apparemment. Donc, j'aimerais creuser un peu là-dessus. J'avais parlé d'un épisode que je voulais faire sur les vieilles expressions françaises ou même les expressions actuelles et leur origine. Ça, je crois que ça peut être assez fascinant. Je parlais de Bill Murray, que j'adore. J'ai encore un podcast à faire sur les profs et leur réalité pendant le confinement. Merci d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Il faut que je finisse de mettre un peu tout ça, de mettre tout ça en place. Je vais parler de la pilule contraceptive. Et cette semaine, je vais faire un show spécial suite à un message qu'un auditeur, que je salue d'ailleurs, Benjamin, merci beaucoup, m'a envoyé un très long message hyper touchant où il me dit « J'envoie ce message avec la permission de mon épouse » et c'est le fait qu'eux voudraient avoir un enfant et ça ne... Il y a eu plein de façons différentes que ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Et j'ai 37 ans aujourd'hui, j'ai un enfant, c'est arrivé à mon épouse plusieurs fois que des grossesses démarrent et n'arrivent pas à terme. En tout cas, pas le terme qu'on espère au début d'une grossesse. Et nous, on avait fait le choix d'être assez... Oui, c'est on. Je ne l'aurais pas fait sans son accord, évidemment, mais c'était ensemble. De pas le cacher. Pour nous, et encore une fois, chacun le vit comme il veut, mais pour nous, le fait de ne pas parler des choses douloureuses les rend encore plus douloureuses parce que ça les rend spéciales. Genre, tu parles de tout, mais ça, t'en parles pas. Pour moi, c'est donner un pouvoir aux événements que tu voudrais qu'il y en ait le moins au final. Et pour moi, la difficulté de m'exprimer et d'en parler ne vaut absolument pas la douleur que ça reste un truc caché. J'ai l'impression que quand tu parles de quelque chose, tu partages le poids de cette chose, en fonction de qui t'en parle, évidemment, mais bon. Et elle a fait une grossesse extra-utérine, entre autres, et ça s'était passé du dimanche au lundi, l'opération, et le lundi soir, j'étais sur scène et elle m'avait dit « Vas-y, tu peux en parler ». Et je crois que j'en ai déjà causé d'ailleurs dans le podcast, puisque c'est dans mon spectacle Rose, qui est disponible gratuitement sur Internet d'ailleurs, sur Vimeo. Il faut un code, et j'avais essayé Virus, et je crois qu'il ne marche plus, mais j'ai remis un autre code, je crois que c'est Oups. De toute façon, si vous voulez le voir et que le code ne fonctionne pas, envoyez-moi un message, et je vais vous le redonner avec grand plaisir. Donc voilà, je vais faire un podcast là-dessus. J'ai des amis, moi, qui m'ont expliqué, qui m'avaient dit une phrase qui m'avait marqué, c'est... Tu sais, il y a une espèce de romantisme d'histoire qu'on se raconte autour du fait d'avoir un enfant. Ces deux personnes amoureuses, tout à coup, ils emménagent ensemble, tout à coup, ils ont envie d'avoir un enfant en même temps. Ils essaient, peut-être ça marche pas du premier ou du deuxième coup, mais après ça, ça fonctionne. La grossesse, c'est incroyable, la fille est lumineuse, quel moment, la vie est en elle. Il y a l'accouchement, la famille, ah, c'est difficile, on dort pas, mais ça vaut la peine. Mais c'est la chose qui arrive aussi souvent que t'achètes un billet de loterie, tu gagnes, tu deviens millionnaire, t'en donnes à des œuvres de charité, puis t'en gardes pour toi, la vie est belle. Une des difficultés, je trouve, dans le fait d'être à deux, par exemple, et de vouloir un enfant, et ça, c'est deux amis à moi qui m'en avaient parlé, que j'avais trouvé ça fascinant, c'est qu'ils m'avaient dit « Nous, on n'a pas voulu en même temps. » Moi, à un moment donné, j'en voulais maintenant. C'était important pour moi d'en avoir maintenant. Et l'autre personne, non. Tu fais quoi? Tu la forces pas, mais la tension permanente que ça met sur la relation où une personne brûle d'envie d'essayer, ne peut pas et ne peut pas mettre la pression. Il y a vraiment la logique de l'éléphant dans la pièce. Finalement, eux, ça s'est bien passé, mais pour certaines relations, ça peut être une pression énorme. Et donc voilà, nous, on en avait parlé beaucoup quand il y avait eu, entre autres, la grossesse extra-utérine de mon épouse. Et on avait eu beaucoup de gens, et dans mon entourage, entre autres, qui avaient dit « Ah, moi, ça peut arriver, genre une grossesse qui s'est arrêtée au bout de 3 mois, il y a eu telle chose. » Et je me dis « Mais enfin, t'as l'impression que c'est une femme sur deux. » Et il y avait ce sentiment, je crois, pour mon épouse, d'être un échec, en fait. Je suis une femme et je n'ai pas réussi à amener une grossesse à terme. C'est mon échec. Et j'espère, j'ose croire, que le fait d'en parler, de te rendre compte que c'était beaucoup plus commun que ce qu'on pouvait croire, avait diminué chez elle cette espèce de sentiment d'être une failure. Enfin, ouais, donc ça, je veux en parler. Puis aujourd'hui, je voulais, entre autres, parler d'adoption. Parler d'adoption parce que, et je vais passer en mode brouillon, parce que plus je pense à l'adoption, moins je comprends la logique de faire des enfants. Et encore une fois, j'ai bien conscience de dire ça alors que j'en ai un, et moi c'est très simple la raison pour laquelle j'ai voulu en faire un, c'est totalement par envie néandertalienne ou reptilienne, ou appelle ça comme tu veux, je voulais vivre cette chose qui est programmée dans nos gènes pour certaines personnes, ben, je veux dire, programmée dans nos gènes en général, mais qui est une envie chez certaines personnes et pas chez d'autres. Moi, je voulais voir ça donnait quoi, un mélange de mes gènes et ceux de mon épouse. Voilà, je voulais un mélange de nous deux. Et c'est vraiment une grande partie des raisons pour lesquelles j'ai voulu avoir un enfant, d'en faire un. Mais c'est mon épouse, entre autres, qui elle a toujours voulu adopter, qui m'a dit cette phrase-là qui est toujours restée marquante pour moi, c'est « Il y a tellement de gens qui existent déjà et qui ont besoin d'aide, si tu rajoutes une personne, ben, tu l'empêches de se faire aider. » Dans le sens de si tu choisis de créer un nouvel être humain qui lui a n'existe pas pour le moment, donc n'a pas de besoin, il va prendre la place d'un être humain qui est déjà là et qui a déjà besoin. Et moi, dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est « Jeez! » Donc, en gros, à chaque fois qu'on fait un enfant, on choisit d'aider quelqu'un qui n'existe pas au détriment de quelqu'un qui a déjà besoin d'aide. Et je sais que quand des réalités rationnelles se confronte à des envies viscérales, il y a une très forte envie, un très fort réflexe de juste rejeter ce fait. En disant, oui, non, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Oui, mais ça, c'est... Je veux dire, il y a de la misère partout dans le monde, ça n'a jamais changé, mais c'est pas ça qui fait... Et en général, les arguments ne font aucun sens. Je crois que la seule réponse logique... Et corrigez-moi si je me trompe, encore une fois, hein, j'ai pas la science infuse, mais c'est vrai, mais mon envie est plus forte, et donc je vais quand même le faire. Et c'est tellement difficile de se dire ça, mais tellement important, pour la même raison que si t'achètes un téléphone qui, tu sais, a été fait par des enfants qui sont exploités, ou qui va polluer la planète, ou qui va de te dire... Oui, mais tu sais, j'en ai quand même besoin. Est-ce que je fais avec, va compenser? Fait, non, non, non. Je connais les conséquences et je choisis de quand même le faire. C'est tout, mais c'est quand même important. Donc, on regarde pour adopter et on regardait beaucoup pour, entre autres, à l'international. Et au Canada, la façon dont ça fonctionne, c'est que le Canada a des ententes avec un certain nombre de pays. Mais en fait, c'est tellement étrange parce que c'est un genre de marché. Marché dans le sens marché financier. Là. C'est une entreprise qui, elle, a le contrat, on va dire, pour tel pays. et tu as une autre entreprise qui va représenter. C'est comme des agents de joueurs, en fait, en sport. Et moi, j'avais fouillé un peu, parce que, bon, évidemment, les prix varient. Puis au Canada, ce qu'on entend souvent, c'est que ça coûte 50 000. Et en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que ça va coûter entre, je sais pas, 10, 15 000 et 50, 60 000. Mais c'est juste le coût de toutes les opérations que tu devras faire. Tu devras aller sur place un certain nombre de fois. Tu devras fournir des papiers, fournir des documents. Quand tu vas chercher dans certains pays l'enfant pour le ramener dans ta maison, des fois, tu sais pas combien de temps tu vas devoir rester dans le pays. Il y a des endroits où tu fais un don à l'orphelinat. Ou, des fois, c'est un peu obligatoire. D'autres fois, c'est pas obligatoire, mais ça ne se fait pas de pas le faire, etc. Et après ça, tu regardes les conditions. Et si tu veux adopter pour des raisons éthiques, ou tu dis, moi, je crois que c'est important d'adopter parce que, voilà, je vais aider un être humain qui a besoin. J'ai la chance, moi, d'être dans une situation où j'ai plus de ressources que de besoins. Je vais les redonner à quelqu'un d'autre et c'est ma manière de contribuer au bien commun. Donc, tu as mis l'éthique assez haut. Et là, tu lis les conditions et il va y avoir des choses comme... refuse des adoptions pour les homosexuels. Tu fais, OK, est-ce que je veux vraiment encourager une agence qui a ce genre de valeur-là? Ou est-ce que le fait d'aider est plus important que... Voilà, t'as des choses comme ça. T'as des conditions, des choses que tu lis qui sont absolument horribles, comme dans certains pays. Je crois que c'est les Philippines ou la Thaïlande de mémoire dans ce que j'avais regardé. T'as pas le droit de choisir le sexe du bébé. Du bébé de l'enfant, pardon, que tu vas adopter. En soi, vite comme ça, c'est pas si choquant. Mais quand tu réfléchis, tu dis pourquoi est-ce que tu peux pas choisir? Pourquoi est-ce qu'ils en ont fait une règle? Et dans les explications possibles, il y a tout le monde veut adopter un petit gars ou une petite fille et donc c'est pas juste, entre guillemets, pour les autres. Ou une raison beaucoup plus horrible, c'est pour protéger d'un certain marché... et de vente et de revente. Donc tu dis, oh mon Dieu, quelle horreur. L'autre chose que j'avais vue aussi beaucoup, c'est parce que forcément, donc tu dis, OK, ben finalement, je vais aller dans tel pays. Ce pays-là, ça a l'air bien, j'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai regardé les conditions. Maintenant, je vais aller me renseigner, donc je vais sur Internet et je fais adopter en tel pays. Et les premières... C'est tous les premiers résultats sur Google, c'est des reportages genre de CNN, de la BBC sur le trafic d'êtres humains dans ces pays-là, l'industrie de l'adoption. Et tu as des histoires comme des familles qui racontent que ah, ben, nous, on avait dit qu'ils prenaient notre enfant pour aller genre lui donner une éducation comme s'il partait en internat, puis en fait, on ne l'a jamais revu. Et tu dis, oh mon Dieu! Et dans le doute, dans le fait de pas savoir comment faire pour que ce soit pas, tu contribues pas à cet horrible marché, ça réduisait quand même déjà les possibilités. Et mais comme vous savez, mon épouse est bipolaire et il y a beaucoup d'endroits qui refusent une adoption si tu as un historique de problèmes de santé mentale. Donc nos options étaient quand même vachement limitées. Et c'est là où j'aurais besoin de vous, dans la deuxième partie de ce commentaire sur les adoptions, c'est qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'on fait une adoption locale? Et au Québec, les adoptions locales, tu as différentes options. Ça s'appelle une, c'est la banque mixte, et l'autre, je ne me souviens plus des termes exacts, mais en gros, soit tu attends d'avoir un bébé naissant, c'est-à-dire quelqu'un qui, même pendant sa grossesse, sait qu'elle va le donner à l'adoption, qui lui retirer directement, t'as une série de situations, l'âge de la personne, s'il y a des problèmes de toxicomanie, t'sais, peu importe. Mais donc là, t'as le bébé et ton enfant aura toujours connu que toi comme parent. C'est évidemment l'option la plus populaire. Le terme populaire est un peu étrange, mais... Et il y a 7 à 8 ans d'attente. Et nous, avec mon épouse, on s'est dit, on va pas faire ça. Moi, la raison pour laquelle je ne veux pas le faire, au-delà du fait que 7-8 ans, c'est long parce qu'on veut avoir une famille où les enfants ont un âge assez rapproché, c'est très certainement que c'est excessivement populaire chez les gens qui ne peuvent pas, avoir d'enfants. Nous, on peut en avoir et j'aurais pas envie de reporter ou annuler le rêve de quelqu'un d'autre qui ne peut pas avoir d'enfants. Et comme nous, notre objectif dans le fait d'adopter, c'est aussi de pouvoir être utile, en gros, pouvoir faire quelque chose de positif, on s'est dit, il y a ceux qui sont placés en famille d'accueil, ceux qui, voilà, qui ça s'est mal passé. Et au Québec, la loi est ainsi faite que tu peux à ce moment-là adopter si tu peux lancer les procédures d'adoption si l'enfant n'a pas revu ses parents biologiques pendant 6 mois. Mais ça veut dire que si les parents biologiques choisissent de le recontacter à 6 mois moins un jour, tu repars pour une période de 6 mois. Donc, en gros, ça peut durer toute la vie avec le parent qui contacte l'enfant 2 fois par année. Moi, je suis pas très chaud parce que ça veut dire que tu peux être avec un enfant pendant 4, 5, 6 ans puis tout à coup, il peut repartir. Je sais pas... Ce serait pas mon option numéro 1. Et surtout, énormément de gens à qui j'en ai parlé m'ont dit exactement la même chose. C'est rough quand même, c'est chaud. C'est difficile. Et j'aimerais ça. Si vous connaissez des gens qui ont été adoptés, si vous, vous avez été adopté, si vous, vous avez adopté, contactez-moi, j'aimerais ça vous parler. Donc sur Facebook, Dan Gagnon, sur Instagram, sur Twitter, peu importe, contactez-moi. Et j'aimerais ça en parler. Je trouve que ça ferait un beau sujet aussi, l'adoption, les histoires d'adoption, qu'elles soient internationales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient suite à des problèmes avec la famille, qu'elles soient suite à des décès dans la famille, peu importe le contexte, j'aimerais ça vous parler, j'aimerais ça lire vos témoignages. Et je connais pas bien cette réalité-là, puis maintenant que moi je m'y intéresse pour éventuellement le faire moi-même, j'ai envie de voir, encore une fois, des petites fenêtres sur vos réalités pour pouvoir avoir des petits aperçus. Donc voilà, ça ferait bien plaisir. Je ferai un post de toute façon là-dessus. Vous pourrez commenter sur le post ou taguer les gens autour de vous. Avant de terminer, parce que voilà, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas fini mon anecdote du départ, donc la boucle va être bouclée. Je parlais de marketing et d'avoir le plus petit groupe viable, la plus petite quantité de personnes viables pour un produit. Donc, dans ce cas-ci, moi, le podcast ou la série de podcasts que je ferai. Et dans le livre de Seth Godin, il expliquait quelque chose qui m'a absolument fasciné. C'est les fameuses arnaques nigérianes. Tu vois, un riche héritier, fortune, contactez-moi. Il dit, dans ces emails-là, il y a toujours énormément de fautes d'orthographe, fautes de français, fautes de grammaire. Et tu dis, pourquoi est-ce que des scammers professionnels feraient autant d'erreurs? Et en fait, selon Seth Godin, c'est totalement voulu. C'est pour que tous ceux qui ont un peu un œil semi-aiguisé puissent se dire, ah oui, non, ok, c'est des couilles, et suppriment le email. Comme ça, dès la porte d'entrée, ne reste que les gens qui les contactent, que les gens qui n'ont pas vu à quel point c'était louche. Donc, le pourcentage de conversion qu'ils vont être capables de faire avec leur arnaque est beaucoup plus grand parce qu'ils ont éliminé ceux qui ne se font pas nécessairement prendre dès le départ. Brillant, déjà. Bien joué. Pour quelque chose de mauvais, mais bien joué. Et je me dis, en fait, c'est ça que j'essaye de faire, que je vais essayer de faire avec le podcast. Prendre des sujets qui sont peut-être pas nécessairement super sexy, mais d'en parler vraiment avec cœur et sincérité. Comme ça, ceux qui, vous, en fait, qui écoutez et que ça intéresse, vous êtes déjà dans la même équipe que moi. Et c'est probablement ce qui fait que même si pour l'instant, les podcasts sont écoutés, genre, on va arriver tout doucement à 5000, je crois, écoutes. On est plus ou moins à 300-400 par podcast pour l'instant. Et ça va en augmentant. Le premier, j'avais mis, c'était 50 ou 100 personnes. Et régulièrement, ça augmente. Donc, c'est super. Mais pour le petit nombre de personnes à échelle médiatique qu'on est, la quantité de retours, d'interactions et de messages de qualité que je reçois est fantastique. Et je sais que je dois vous remercier pour ça. Parce que moi, je suis pas plus connu aujourd'hui que je l'étais hier. La seule raison pour laquelle il y a plus de gens aujourd'hui qu'hier, c'est parce que vous avez aimé un épisode et vous l'avez fait entendre à quelqu'un. Ou vous avez aimé une réflexion ou pas aimé une réflexion et ça vous a donné envie de la partager avec quelqu'un d'autre ou d'échanger ou une idée que vous a rendu curieux. Et donc voilà, c'est vous qui en parler à d'autres gens qui sont comme vous, qui s'y intéressent à ce genre de conversation. Donc, c'est super gentil. J'essaie de me retenir de le demander parce que je trouve que ça fait nul. Tu vas dire, ah, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Il y a un côté un peu vendeur à la sauvette qui je ne sais pas si c'est nul de le faire ou c'est juste de l'orgueil, de l'ego où tu dis, j'aimerais ne pas avoir à le faire et avoir 1 million de personnes qui me suivent. Je ne sais pas c'est lequel des deux. Mais j'essaie de me concentrer uniquement à faire le meilleur produit possible, espérant que ça rayonne assez fort. Donc, je voulais vous remercier quand même, encore une fois, pour tout ça. Merci pour les retours sur l'épisode avec mon épouse. Et puis, je vous tiens au courant quand on pourra relancer le... Il y aura la plateforme sur laquelle le podcast avec elle aura été relancé. Même si Weed with Wife, alors que moi, je fume plus. C'est quand même un concept qui marche pas trop avec le titre. Mais en même temps, dans le podcast tout seul, j'ai fait une interview avec une autre personne. Donc, toute évidence, la crédibilité sur les titres, c'est pas si important. Merci beaucoup, vraiment. Passez une bonne semaine, j'espère, et à demain.